vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour, bienvenue, c'est Cinérama en mode estival avec une rubrique qu'on n'a pas quittée depuis le début de l'été, c'est celle sur les femmes compositrices et c'est toi qui l'as voulu et c'est toi qui nous en parles de ces femmes.
Eh oui, en plus ça nous fait voyager un petit peu partout dans le monde parce que là aujourd'hui on s'arrête en Australie pour parler de Lisa Gerrard.
Et puis tu auras aussi un film
qui s'appelle Reality de Tina Satter.
Quant à Marine, elle nous parlera de Quand les vagues se retirent. Et puis nous allons prendre un blind test des archives de l'émission Cinérama. Ce sera un blind test spécial drogue, car le film dont va nous parler Marine traite de la drogue. Précisément, c'est l'histoire d'un membre des forces de l'ordre qui est le témoin privilégié de la campagne meurtrière que le gouvernement philippin mène contre la drogue. Et c'est quelque chose qui a par ailleurs existé. Nous débutons cette émission avec Quand les vagues se retirent.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui.
Cinérama.
Le monde devient philosophique.
L'opération Tokang, en référence au bruit que la police fait en tapant à la porte, et l'opération de purge lancée par le président Duterte aux Philippines entre 2016 et 2022. Mise en place pour lutter contre la drogue, elle va vite tourner au carnage puisque 3000 personnes soupçonnées de consommer ou de vendre de la drogue seront abattus de façon totalement arbitraire par la police dès les trois premiers mois. Les principales victimes sont les habitants des barangays, ces quartiers populaires de Manille, dans cette opération aux moult dérives qui ressemble surtout à une guerre contre les pauvres. Le lieutenant Hermes Paporan est l'un des meilleurs enquêteurs des Philippines et il assiste à cette campagne meurtrière anti-drogue dont Quand les vagues se retirent. Il y participe même. Sa culpabilité le hante au point de prendre la forme peu à peu d'une maladie de peau. En parallèle, Supremo Macabante, un flic plus âgé, sort de prison après 10 ans. Quand les vagues se retirent, c'est le nouveau film de Lav Diaz, le père idéologique du nouveau cinéma philippin, comme on l'appelle. Il a 64 ans et l'air d'en avoir 39, à tout casser. Il a reçu le Léopard d'or à Locarno pour son film From What Is Before et le Lion d'or à Venise pour La femme qui est partie. Lav Diaz, c'est plus de 25 films depuis ses débuts en 98 et une conscience politique très marquée qui inonde ses œuvres. En même temps, Lav Diaz est né en 58. Il a connu la loi martiale instaurée dans les années 70 aux Philippines par Ferdinand Marcos. Et même si sa vie et sa carrière se sont poursuivies à l'étranger, et notamment à New York, le cinéaste a continué à faire de la situation politique des Philippines l'un de ses sujets de prédilection. Dans Les vagues se retirent, il est question de la politique donc très répressive du président Duterte. Le film a évidemment une dimension critique immense. Il questionne le peuple philippin et le pouvoir des institutions avec un format fleuve, 3 heures, et un ton entre fiction et documentaire, laissant parfois la place à de longues scènes de dialogue sans musique additionnelle, dont le réalisme peut s'avérer absolument glaçant. De même, les photos montrées dans la première moitié du film sont bien réelles. Ce sont les photos du journaliste Rafi Lerma, car la campagne d'épuration contre les supposés dealers était bien évidemment largement documentée. Les victimes étaient même laissées volontairement dans la rue, avec à leur côté une pancarte les accusant d'avoir vendu de la drogue afin que leur image soit ensuite relayée dans les médias. Les personnages du film sont particulièrement complexes, torturés, représentant à la fois des archétypes du peuple philippin, comme par exemple l'inspecteur de police qui est devenu extrêmement religieux, voire mystique en prison, et la conscience du réalisateur. Ce qui est intéressant dans Quand les vagues se retirent, c'est que le film se réclame du film noir avec ses personnages de flics qui doutent, ses décors de bas-fond, sa pluie, ses enquêtes, alors que le cinéma philippin n'a jamais proposé de film appartenant à ce registre. Ce qui s'en rapproche le plus étant les films dits bomba dans les années 60, des films philippins qui étaient en fait des remakes plus ou moins réussis et bien financés des James Bond. Et puis, un récit radical, esthétique, radical, Quand les vagues se retirent, n'est pas un film facile dans lequel on s'engouffre en petite forme. Non, c'est un film exigeant, pointu, profond. Il utilise d'ailleurs un noir et blanc très particulier qui déjoue totalement nos attentes d'exotisme en nous proposant de voir les paysages de Mani au travers d'un camaïeu de gris. Le film a été tourné en 16 mm. Qui décidément revient très très fort ces temps-ci au cinéma. La lumière utilisée est très particulière, floutant l'image, la rendant à la fois délavée et granuleuse, et cela peut être un peu déstabilisant. La première scène, notamment dans le commissariat, n'est pas spécialement avenante. En revanche, certaines scènes, comme celle nocturne avec les prostituées de Manille, utilisent à la perfection ce noir et blanc très diffus. Mais les choix esthétiques du film, d'une façon général, font qu'il mérite, je crois, vraiment d'être vu sur grand écran.
Quand les vagues se retirent est un film en salle depuis le 16 août. Ce film nous donne l'occasion eh bien, de tester vos connaissances en fait, autour des films qui traitent de la drogue, du trafic de drogue. C'est un blind test évidemment que l'on a fait dans des émissions précédentes. On l'écoute.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview. Chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Blind test spécial drogue avec quand même un genre qui chez les malfrats est pas forcément très très courant parce qu'on préfère les attaques de banque. C'est une question d'hierarchie dans l'illégalité. Mais n'empêche qu'il y a quelques films qui font référence donc au trafic de drogue. On écoute le premier extrait, un des plus célèbres.
T'as qu'à m'appeler Franck. Tout le monde m'appelle Franck. Tous les gars de l'équipe. Et même si foutu comme procureur au tribunal, tous ils m'appellent Franck.
Ok, Franck.
Enchanté.
Mani Ribera.
Ah, je te fais mal.
Mani est bon pour la réforme.
Oui. La balle m'a traversé.
J'ai appris ça. Omar, il a trouvé vous deux formidables.
Oui. Oh, mais il est très bien aussi.
Je ne parle pas, bien sûr, du très joli boulot que vous avez fait pour moi. Le coco a peut-être de mule que t'as
fait. Ouais, ça vaut pas le coup de parler de ça. J'avais le fou rire.
T'avais le fou rire?
Ouais, vachement.
Il avait le fou rire.
J'ai trouvé ça marrant.
Eh ben, qu'est-ce que t'as envie de boire, scotch, gin, rhum? Qu'est-ce que tu veux?
Ah, du gin, c'est pas le fait. Tu veux, toi?
Voilà, donc, premier extrait assez emblématique des films sur les trafiquants de drogue.
Marine. Oui, c'était Scarface.
Voilà, de Brian De Palma.
Manu n'a pas trouvé.
Avec un des spécialistes de Brian De Palma qui vient de s'installer dans le studio.
Je viens d'arriver aussi. Hein.
Donc évidemment, un remake du Scarface de Howard Hawks qui était sorti, lui, en 1932 avec le grand Tony Montana. Pour le Scarface de Brian De Palma, évidemment. Donc on écoute un deuxième extrait d'un film aussi assez emblématique et plutôt récent.
Ils sont en position de force de l'autre côté de la frontière mexicaine et aux États-Unis.
Sait-on comment ces cartels ont réussi à atteindre le niveau technologique très sophistiqué dont ils font preuve?
Kai, je vous laisse répondre.
Un budget illimité.
Vous voulez dire que face à un pays de la taille du nôtre, et malgré les crédits que nous y consacrons, ils arrivent à se maintenir au même niveau?
Non. Ils sont en avance sur nous.
En avance?
Notre budget n'est pas à la hauteur, il n'y a même pas de comparaison.
Voilà, donc ça a été trouvé parce que c'est facile.
Oui, c'était trafic, parce qu'on entendait, il me semble, le doublage de Michael Douglas.
Oui, non, c'était effectivement un indice, et puis aussi l'autre indice,
Soderbergh.
C'était
l'histoire de frontières
entre le Mexique et les États-Unis, avec les États-Unis forcément ont du retard sur les trafiquants, sachant que le film là aussi est plutôt noir tout de même, même si
il est jaune et coloré,
il est plutôt noir. Un autre exemple, alors là je sais pas si c'est facile à trouver, mais en tout cas il y a un sacré fort indice.
En prolongeant les quais d'une trentaine de mètres, on pourra recevoir des unités de 500 tonnes.
Et combien d'ordres supplémentaires?
Oh, ça fera environ 10 hommes de plus.
Le syndicat exigera un minimum de 12 hommes.
Quelle importance. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un chantier qui pourra recevoir les plus grands bateaux du monde.
Dis-moi, vieille branche, comment peux-tu rester si jeune avec la vie que tu mènes?
Mais quelle vie, Marcel. Je ne fais plus rien depuis que je suis descendu de ces cabines.
Alors, ça a été trouvé par menu.
Oui, c'est French Connection de William Friedkin. Et ça, ça se passe à Marseille, effectivement.
Voilà. Donc, il y a un passage à Marseille. Et puis, il y a une autre partie du film qui se passe à New York. Et là, il vient voir un peu comment il pourrait recevoir la drogue. Et le petit indice, c'était forcément l'accent marseillais. C'est un des seuls moments, je crois, où on entend l'accent marseillais. Oui, enfin, je crois. Voilà. C'est à noter, oui, j'ai trouvé ça, alors qu'il a reçu quand même 5 Oscars, hein, ce film, c'est pas rien. Et qu'il a été le premier film classé R, donc interdiction aux moins de 17 ans aux États-Unis. Donc premier film classé R de l'histoire du cinéma américain donc à obtenir un Oscar du meilleur film. Voilà.
C'est formidable.
Ah bah oui. On en apprend des choses. Bon, là c'est un film alors nettement plus récent et on est plutôt dans le registre de la comédie. Et voici l'extrait.
Heureusement pour vous deux, nous faisons un remake d'un programme d'infiltration des années 80 avec une petite touche de modernité. Voyez-vous, les décideurs en haut lieu n'ont aucune créativité. Ils sont totalement à court d'idées. Et alors ils ne font que recycler un tas de vieilles bouses. Et on est censé y voir que du feu. L'un de ces programmes nécessite de jeunes officiers souffrant d'un déficit de maturité.
Vous voulez nous jeter dans un réseau de genre d'esclavage sexuel infantile?
Chef, s'il faut que je suce une bite, je reculerai pas. C'est juste que si je peux éviter, je...
Vous ferez parfaitement l'affaire. Vous êtes muté, bande d'abrutis.
D'accord.
Voilà, donc, c'est éloquent. Hein. Il y avait plusieurs, comme ça, petits exemples de dialogue. Ça a été trouvé, évidemment.
C'était 21 Jump Street.
La remake de la série avec Johnny Depp, celui qui a fait connaître Johnny Depp. Et là, on entendait Channing Tatum et Jonah Hill. Voilà. Film de 2012. C'était le plus récent de ce blind test, puisque là, eh bien, on va retrouver un film qui est sorti un peu avant.
C'était quoi cette drogue? Elle me forçait à faire le ménage, je n'avais pas fumé depuis 6 heures, je n'avais rien mangé, alors rendait-elle abstinent et ordonné? C'est quoi l'idée? Une drogue pour les gens qui veulent faire de la rétention anale? Je planais pas, j'étais pas défoncé, j'avais les idées claires. Je savais quoi faire et comment le faire.
Ah oui, là, il y a plein de monde de films, mais... Alors, je crois qu'il est déjà apparu dans un blind test. C'est une drogue. Il dit que ça le met pas complètement stone. Hein. C'est une drogue, au contraire, qui lui donne...
Limitless.
Voilà. Qui décuple sa concentration, sa mémoire, voilà. Il devient de plus en plus fort. Et lui, il va essayer de gérer son approvisionnement. Donc, c'est un peu à côté du genre, je suis d'accord.
Ouais, c'est un peu de la SF aussi.
Oui, c'est
un peu
de la SF,
mais voilà, c'était l'occasion aussi voilà, de flirter un peu avec plusieurs genres. Et je trouve que c'est un film, par ailleurs, qui est nettement meilleur que le film de Besson que nous avons eu cet été. Voilà. Hein, sur un thème qui, au départ, est le même.
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Film donc de Neil Burger Limitless avec Bradley Cooper. Ainsi s'achève ce blind test brillamment réussi par l'équipe.
This is Cinerama.
Après ce blind test tiré des archives de Cinerama, nous allons revenir à la série de l'été sur les femmes compositrices. Nous parlons de Lisa Gerrard.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
L'Australienne Lisa Gerrard doit sûrement parler à certains d'entre vous, car c'est l'une des fondatrices du groupe Dead Can Dance. C'est elle, la compositrice et chanteuse mystique, qui apporte tout un côté surréel, éthéré et planant à leur musique, comme vous avez pu l'entendre avec cet extrait du célèbre morceau The Host of Seraphim. Ses compositions sont d'autant plus planantes qu'elle n'a pas de frontières délimitées, étant influencée autant par diverses cultures qu'elle a fréquentées à Melbourne que par des inspirations liturgiques ou encore médiévales. Lorsque le groupe se sépare à la fin des années 90, Lisa Gerrard ne se laisse pas aller pour autant et se lance dans la musique de film. Son premier essai est pour un grand réalisateur d'un film malheureusement un peu oublié de sa filmographie. Il s'agit de Michael Mann et le film est Révélation avec Russell Crowe, sorti en 99. Alors pour l'occasion, elle embarque avec elle le percussionniste Peter Burke, avec qui elle avait déjà collaboré au sein de Dead Can Dance. On écoute le morceau Tempest. Elle retrouve un Russell Crowe l'année suivante pour un film qui aura un bien plus gros succès, à la fois critique et commercial, le péplum Gladiator de Ridley Scott. Assistant Hans Zimmer à l'écriture, elle gagnera un Golden Globe pour cette BO. On écoute un extrait de Now We Are Free. La même année, elle assiste toujours Hans Zimmer pour apporter toute l'intensité tragique chère au génial réalisateur chinois John Woo, à qui on a confié le second volet de la saga Mission Impossible. On écoute un extrait d'Injection qui participe à nous émouvoir du sort du personnage joué par Thandie Newton qui vient de s'inoculer un terrible virus nommé la chimère. Après avoir retrouvé Michael Mann pour son biopic sur Mohamed Ali, elle participe à la BO d'un jeune réalisateur qui allait devenir une future valeur sûre d'Hollywood, Michael Vaughn. Le film s'intitule Layer Cake, sort des carcans habituels du film de gangster et propose à son générique un Daniel Craig pas encore sacré James Bond. Mais on retiendra surtout, également en 2004, sa participation à l'écriture musicale de ce qui est probablement le chef-d'œuvre de Tony Scott, le film de vengeance Man on Fire avec Denzel Washington. On conclut sur l'approprié The End. Oh, Avec son style si particulier, reconnaissable entre mille, et sa voix de cristal, Lisa Gerrard aura participé à établir, bah, qu'on l'aime ou non, hein, le son des blockbusters hollywoodiens du début des années 2000.
On se retrouve la semaine prochaine et tu nous parleras de Shirley Walker, et pour cela tu prendras même deux émissions.
Et oui, vu l'importance de la dame et son immense talent, on va se faire plaisir cette fois-ci, on conclut l'été en deux parties. Vous verrez pourquoi.
Qui est Reality Winner, cette jeune américaine de 25 ans interrogée par le FBI? Peut-être qu'on va avoir des éléments de réponse avec toi, Guillaume.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama.
Je suis allergique.
Le carton d'introduction nous annonce tout de suite la couleur. Tout ce que l'on va voir dans ce film assez court, 1h23, et surtout tous les échanges dialogués auxquels nous allons assister sont l'exacte retranscription d'enregistrements officiels. Et donc voici la vérité vraie que l'on va questionner avec Reality. Alors bien sûr, le titre est bien choisi, puisque le film va constamment jouer sur la notion de vrai ou de faux, mais comme pour le reste, il n'y a pas eu besoin d'aller chercher très loin pour le trouver. Reality Winner, et oui, c'est un vrai nom qui rappelle que seuls les Américains sont capables de ce genre de choses, est une jeune femme femme de 25 ans, mais qui a déjà un long palmarès à son actif. Ancienne membre de l'Air Force, hein, elle est polyglotte et manipule toute la journée des documents confidentiels. Le 3 juin 2017, elle voit arriver toute une équipe d'agents fédéraux qui vont progressivement envahir et son domicile pour faire des perquisitions et son passé pour la soumettre à un interrogatoire. Reality a l'air en apparence, hein, d'une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais derrière son pédigré, les cours de yoga qu'elle donne, l'amour qu'elle porte à ses animaux et sa propension à documenter ses déplacements sur les réseaux sociaux, qui est-elle vraiment ? What's going on? Reality. Were you surprised to see us today? Peu ou prou, hein, de suspense. Hein. Si le film tend à faire monter la sauce quant à la raison, hein, de la visite du FBI dans ce pavillon de banlieue américaine complètement banal, on a très tôt fait de comprendre, hein, fonction de reality et défilé fédéral oblige, bah, qu'il va être question de sécurité nationale et d'investigation tendant, bah, à établir si l'une des personnes qui a accès à des informations confidentielles ne les aurait pas divulguées. Hein, ce secret de Polichinelle aura d'ailleurs tôt fait d'ennuyer ou d'énerver, c'est selon le spectateur qui voit clairement où l'on veut en venir. Reality est-elle une espionne, une terroriste, une lanceuse d'alerte ? Et si le nom d'Edward Snowden est inévitablement cité, hein, plusieurs fois, bah c'est peu de dire que nous sommes loin du très efficace, lui, film d'Oliver Stone. Car la seconde chose, hein, que nous indiquent les cartons d'introduction est que c'est un film produit par HBO, la célébrissime chaîne câblée américaine qui est devenue une plateforme de streaming, et cela pouvait être au départ un bon signe. HBO a un historique impressionnant d'œuvres ayant commenté l'actualité politique américaine, ses coulisses comme ses travers. Rappelons-nous, bah, des très intéressants films de Jay Roach, hein, comme Game Changer, sur la sinistre Sarah Palin, ou même le parodique The Second Civil War de Joe Dante qui imaginait, comme son nom l'indique, bah, une potentielle seconde guerre civile divisant les États-Unis. Malheureusement, on retiendra surtout ici du label HBO que Reality, dans sa mise en scène extrêmement dépouillée à base de champ contre champ et quasiment intégralement composée de plans fixes, est un produit terriblement télévisuel qui interroge sur sa présence sur grand écran. Il donne l'impression d'être un film d'espionnage tourné comme une story Instagram, hein, et ce n'est bien sûr pas un compliment quand le cinéma nous a déjà prouvé qu'on pouvait faire, hein, des merveilles avec juste quelques personnages parlant dans une pièce, comme les chefs-d'œuvre 12 hommes en colère de Sidney Lumet, My Dinner with André de Louis Malle, ou le très récemment oscarisé Woman Talking, sorti quelques mois plus tôt cette année. Même le questionnement fiction-réalité traité via le prisme du cinéma, bah, tombe quasi instantanément à l'eau tant il est inexistant. Okay, well, I lied. Don't we all?
Reality. What if I said that you printed out classified information?
Surtout, on en vient très vite, hein, à se demander ce que le film veut raconter ou défendre. Reality a voulu réagir aux soupçons de participation des Russes dans l'élection américaine ayant amené Donald Trump, qui n'est jamais cité, hein, mais dont on voit régulièrement le nom apparaître sur les écrans, retranscrivant des véritables passages télévisés d'époque, au pouvoir, mais au-delà de ça, hein, au-delà du scandale qui était, et le film le dit, hein, déjà connu du grand public. Ben, Reality n'est pas vraiment une lanceuse d'alerte, hein, n'est pas vraiment une combattante. C'est quelqu'un qui a pensé agir à un moment où un processus de contestation était déjà enclenché dans le pays et qui fera une peine de prison pour cela. Alors nous sommes donc loin de Edward Snowden, comme dit précédemment, et surtout en présence d'une non-héroïne à qui à aucun moment, hein, semble particulièrement engagée. C'est toute la limite du film, hein, qui noie le vide de son contenu en essayant de montrer à quel point l'interrogatoire des deux agents du FBI semble lunaire et surréaliste, sauf qu'on comprend très bien et très vite que, attention surprise, hein, cela était bien sûr mis en scène pour lui tirer les vers du nez. Reality, hein, voudrait probablement dresser le portrait d'une jeune femme d'aujourd'hui qui voulait faire un geste contre un acte politique, hein, qui lui déplaisait. Il n'arrive qu'à nous dresser le portrait d'une génération molle, bien loin des enquêteurs, des hommes du président, des détectives de JFK, des activistes du Weather Underground ou de tous les gens, bah, qui ont littéralement bougé leurs fesses, hein, pour lutter contre un système qui violait leurs idées. Alors camarades, hein, si vous voulez être vraiment des winners, bah, il va falloir s'y prendre d'une autre manière et surtout retrousser les manches.
J'avais aussi un autre film qui se passe pas au bord des champs contre champs, mais avec des dialogues, c'est Garde à vue de Claude Miller.
Oui, tout à fait, ouais, qui a été mal remaké par les Américains.
Et oui. Donc, Reality est en salle depuis le 23 août.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine avec un topo sur les réalisatrices françaises et le cinéma de genre, et on ne quittera pas les femmes avec ta rubrique sur les compositrices.
C'est ça, on va attaquer une première partie sur Shirley Walker.
Et puis tu nous parleras du dernier film de Robert Rodriguez,
Hypnotique.
Et nous parlerons de la Palme d'Or du Festival de Cannes 2023, Anatomie d'une chute. À la semaine prochaine.